Les contes de fées, le magazine scientifique de la formation. Les fées ne parlent pas, disait le mathématicien français Henri Poincaré. Le réel ne fait pas connaissance. Henri Poincaré répond ainsi à Plaute, 2000 ans après son fameux « Les faits parlent d'eux-mêmes ». Il ajoute, en 1902, dans son ouvrage « La science et l'hypothèse », cette belle formule « On fait la science avec les faits, comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. » Pour construire sa maison, sa connaissance, il est nécessaire de raconter, d'animer les faits, au sens étymologique, donner une vie, du souffle, à de l'inerte. Raconter, c'est enseigner, donner du sens aux signes, mais raconter, c'est aussi s'amuser, muser avec, errer ensemble dans le labyrinthe des idées. Ce que le physicien David Bohm appelait la danse de l'esprit. Seule notre espèce aime raconter des histoires, constatait le paléontologue Pascal Pic. Alors, racontons des histoires, pour donner de la saveur au savoir. La fiction et la science font bon ménage pour interroger l'action et la formation. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Le e-learning va-t-il tuer la formation ? Et si Socrate avait raison ?» Nous avons dans cet épisode ce qu'il faut penser de l'émergence de l'écriture numérique. Va-t-elle s'imposer pour devenir la nouvelle grammaire de la pédagogie ? Quels sont les dangers de cette nouvelle forme de formation ? Quel est le point de vue des neurosciences sur ce phénomène ? Et bien sûr, quel est le point de vue de Socrate ? Bonjour, je m'appelle Stéphane Diebold. Pourquoi parler de Socrate ? L'historien des sciences, James Burke, reformule la question en interrogeant « Pourquoi devons-nous regarder le passé ?» Et il répondait « Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où regarder. » C'est tout le problème des sciences humaines par rapport aux sciences qui peuvent favoriser l'expérimentation et la vérification par l'expérimentation. Italo Calvino, dans Le Baron Perché, en 57, qui est le deuxième ouvrage d'une trilogie de nos ancêtres, avait cette explication pourquoi le baron était perché dans les arbres. Il disait « Pour bien voir la terre, il faut la regarder d'un peu loin. » Socrate est-il assez loin de nous pour l'interroger sur nos proximités ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors, de quel Socrate parle-t-on ? Du Socrate de Phèdre, où il a abordé le sujet, non pas sur l'émergence de l'écriture numérique, mais sur l'émergence de l'écriture manuscrite, avec les mêmes questions et peut-être les mêmes réponses. Que dit-il de l'écriture ? À son habitude, au sein d'un dialogue, il raconte une histoire. Il était une fois un dieu égyptien, Thoth, T-H-O-T, que certains appellent Teut ou Tout, Thoth ou Taout. Ça dépend de l'orthographe et des techniques de traduction qu'on utilise. Mais disons, un dieu égyptien, Thoth, alla voir son roi, Tammouz, le roi de Thèbes, pour lui faire l'apologie de son invention et lui vendre ses idées. Il venait d'inventer l'écriture. Thoth, l'inventeur de l'écriture. Cette science, disait-il, rendra les Égyptiens plus savants et facilitera l'art de se souvenir. Car j'ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire. Pour Thoth, l'écriture est un moyen de rendre plus savant, de comprendre plus de choses. Il s'agit donc d'un progrès social. Tout semble bien dans le meilleur des mondes. Mais l'écriture est aussi autre chose qu'un média pour apprendre. C'est aussi, suivant le type d'écriture, un outil pour apprendre différemment. Joël de René avait cette punchline qui permettait de décrire les trois grandes révolutions scripturales. La première, l'écriture manuscrite, il y a 5000 ans, celle dont parlait Socrate, puis l'écriture mécanique, avec l'imprimerie de Gutenberg, il y a 500 ans, et enfin de l'écriture numérique, il y a 50 ans. 5000, 500, 50. Chaque période d'apprentissage, chaque période d'écriture est un apprentissage, un paradigme différent. Au sens où l'entendait Thomas Kuhn dans son ouvrage en 62, La structure des révolutions scientifiques. C'est une façon de penser différente qui est validée par la communauté des sachants. Autrement dit, le paradigme est la façon de penser dominante. Tout le monde pensant pareil, ça devient une vérité sociale. Prenons un exemple. Avec l'émergence de l'écriture mécanique, dans les années 1450, à la fin du Moyen-Âge, avec les fameux caractères métalliques, mobiles, qui ont révolutionné la typographie, la conséquence en fut de permettre une inflation de livres, qui était plus facile à produire en grande quantité. Et donc une nouvelle diffusion des idées. Et donc le foisonnement des débats devenait de plus en plus argumenté. C'est la fin des copistes qui diffusaient au rythme de l'écriture manuscrite. Et comme le dira plus tard, en 64, Marshall McLuhan, le médium est le message. C'est l'écriture mécanique qui donnera naissance au paradigme de la Renaissance, avec un foisonnement de connaissances par confrontation, par diffusion de ces confrontations. On le voit, l'écriture n'est pas un exercice ou un simple outil d'apprentissage. Chaque fois, c'est une culture pédagogique qui change et le contenu et le contenant de la formation. Alors que nous dit Socrate sur cette première révolution scripturale? Il poursuit son dialogue. Après avoir présenté les avantages de l'écriture, un progrès social qui rend plus savant et soulage la mémoire, Thote écoute la réponse de son roi Thamus. Très ingénieux, Thote. Tel homme est capable de créer des arts et tel autre est capable de juger quel lot d'utilité, de nocivité ils conféreront à ceux qui en feront usage. Et c'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues, par bienveillance, tout le contraire de ce qu'elle peut apporter. Elle ne peut produire dans les âmes, en effet, que l'oubli de ce qu'elle savait et en faisant négliger la mémoire. Parce qu'ils auront foi en l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères et non plus par le dedans et le fond d'eux-mêmes que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le moyen, non point d'enrichir la mémoire, mais de conserver les souvenirs qu'elle a. Tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils auront en effet beaucoup appris sans maître, ils s'imagineront devenir très savants. Et ne seront pour la plupart que des ignorants, des savants imaginaires, au lieu de vrais savants. Finalement, Thamus est loin d'avoir l'enthousiasme de Thote. Pire, au lieu de rendre savant, l'écriture rendrait plus ignorant. Thamus reflète la position de Socrate. L'écriture n'est pas une bonne chose. Alors, quels sont ses arguments? On va développer ces arguments qui sont contenus dans cette citation en reprenant la synthèse du linguiste Walter Jackson Hong dans Oralité et Écriture en 2014 qui proposait trois grosses critiques. La première critique, c'est que l'écriture est inhumaine. La deuxième critique, c'est que l'écriture détruit de la mémoire. Et enfin, la troisième critique, c'est que l'écriture ne réagit pas. Eh bien, nous allons les prendre une par une pour développer dans cet épisode, pour voir quelle est la pertinence de ces critiques et comment est-ce qu'elles se confondent à la connaissance scientifique du moment. La première critique, c'est la critique inhumaine. L'écriture est inhumaine. D'où vient l'écriture? L'écriture vient étymologiquement du mot incision. Écrire, c'est inciser. C'est marquer. Faire une marque dans des tablettes d'argile, pour rester dans les esprits. Écrire, c'est marquer les esprits dans le temps au-delà de la présence de son auteur. Autrement dit, l'écriture est un fossile de savoir, une trace d'un savoir vivant qui n'existe déjà plus, mais qui est encore diffusé. L'écriture est un média qui transmet des fossiles, une pensée manufacturée externe au lecteur. C'est la raison pour laquelle Socrate préfère la transmission orale. L'oralité est porteuse de vie. Elle donne de la saveur au savoir. Avoir tout Wikipédia à disposition ne donne pas envie d'apprendre. Il manque l'envie. Pour Socrate, c'est l'oralité qui fonde l'homme. C'est l'étalon de toute chose. Ne dit-il pas un peu plus loin dans le Phèdre, cette belle oraison, « Donnez-moi la beauté intérieure et faites que tout ce que j'ai d'extérieur soit en accord avec ce qui m'est intérieur. » L'intériorité est ce qui fonde l'homme avec une harmonie entre ce qu'il est et le monde qui l'entoure. La pédagogie socratique est fondée sur la parole, ce qu'il appelle lui-même l'art de la parole. Il est encore, je pense, une bien belle manière de s'occuper de l'art de la parole. C'est quand on a rencontré une âme bien disposée d'y planter et d'y semer, avec la science, en se servant de l'art dialectique, des discours aptes à se défendre eux-mêmes et à défendre aussi celui qui les sema. Discours qui, au lieu d'être sans fruits, porteront des semences capables de faire pousser d'autres discours en d'autres âmes. D'assurer pour toujours l'immortalité de ces semences et de rendre heureux, autant que l'homme peut l'être, celui qui les détient. Pour Socrate, l'homme est formateur, jardinier du savoir, de ces savoirs qui laissent grandir la beauté intérieure, qui rendent heureux autant que l'homme peut l'être. C'est cette beauté qui fait l'homme. L'écriture n'est pas pourvue de cette humanité, elle ne rend pas heureuse pour Socrate. C'est une analyse très intéressante car elle explique pourquoi un savoir fossile a besoin d'un animateur pour incarner au sens étymologique le savoir. Animer, donner la vie. Que vaut une formation sans le formateur? Distribuer des contenus d'une formation en PDF ne permet pas d'animer une formation. L'apprenant a besoin qu'on donne vie au savoir. Socrate investit la raison et le langage d'un supplément d'âme, d'un souffle de vie. Il critique l'écriture qui manque de ce souffle. Pour Socrate, les mots sont des petits véhicules qui non seulement ne peuvent pas comprendre le monde, mais en plus portent tant d'histoires qu'il est difficile de garder celle de l'auteur. Hegel avait admirablement décrit la chose quand il disait « Si j'appelle criminel quelqu'un qui a fait un crime dans sa vie, j'efface tous les autres aspects de sa vie pour ne considérer que cet aspect criminel. » Et pourtant, le criminel n'est pas qu'un criminel. C'est tant d'autres choses, y compris un être humain. Le logos ne peut pas dire le monde. Au mieux, il dit des choses du monde. Et cela, Socrate l'avait noté, et c'est en cela que Socrate s'oppose aux sophistes. Les sophistes considèrent que nous sommes bien séparés du monde, comme Socrate, mais que le langage ne renvoie pas, comme chez Socrate, à une réalité ontologique. Le langage, c'est simplement du langage. Un outil au service d'un projet, un outil pour impacter, motiver, mobiliser. Pour les sophistes, que Bernard Stiegler appelle les grammairiens du savoir, on utilise le langage comme un outil pour transmettre, quel que soit le savoir à transmettre. L'art de la parole chez les sophistes est l'art de l'éloquence pour agir. L'art de la parole est la technique des bons mots, des joutes, des effets de manche. Les mots n'ont de sens que dans le mouvement qu'ils entraînent. On peut mentir pour une bonne cause si ça marche. Socrate cherche une sincérité, non pas simplement un parfum de sincérité, l'éloquence du vrai. Vieille querelle entre pédagogie socratique et pédagogie sophiste, mais qui garde toujours son actualité, aujourd'hui dans nos pédagogies, quel fondement. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi comment les neurosciences regardent cette querelle. Robert Sperry, prix Nobel en 1981, a observé par imagerie cérébrale les aphasiques, ces êtres sans parole qui souffrent d'une lésion des zones du langage et qui s'aperçoivent que les zones cérébrales mises en activité sont exactement les mêmes que celles de l'homme pourvu de parole. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la pensée sans langage. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le prix Nobel. Clairement, disait-il, l'hémisphère droit perçoit, pense, apprend et se souvient à un niveau tout à fait humain. Sans le recours au langage, il raisonne, il prend des décisions cognitives, il met en œuvre des actions volontairement nouvelles. L'esprit, pour reprendre la terminologie socratique, n'est pas dans le discours. Ça donne un regard particulier pour cette opposition avec les sophistes. Allons plus loin. Roland Barthes, dans sa conférence inaugurale au Collège de France, propose une idée. Le langage est une législation, une langue, et la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue parce que nous oublions que notre langue est un classement, que tout classement est oppressif. Ordo veut dire à la fois répartition et combination. Jacobson l'a montré, un idiome se définit moins par ce qu'il permet de dire que par ce qu'il oblige à dire. Dans notre langue française, je suis obligé de toujours choisir entre le masculin et le féminin, le neutre ou le complexe me sont interdits. De même encore, je suis obligé de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au tu, soit au vous. Le sujet affectif ou social m'est refusé. Ainsi, par la structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler, à plus forte raison, discourir, n'est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute langue est une rection générale. La rection du langage, une langue sans beauté intérieure, dirait Socrate. Et c'est exactement ce que Socrate reprochait aux sophistes. Dans nos entreprises, les mots ont perdu leur beauté intérieure. Parler par exemple de management bienveillant, dans nombre d'entreprises, frise souvent la nouvelle langue de Orwell. Les mots ont besoin d'être animés, non pas simplement manipulés. Mathieu Richard avait une très belle phrase qui s'adapte particulièrement aux soft skills. Le message est le messager. Si le formateur n'incarne pas ce qu'il énonce, les apprenants ne pourront pas apprendre le contenu. Les formateurs doivent être attentifs à leur contagion émotionnelle. Sur ce point, on pourrait faire une remarque. Si Socrate a bien vu l'externalité du savoir, ce n'est pas sans poser des problèmes. C'est peut-être minimiser la place de celui qui lit. La lecture est un voyage immobile, disait Fernando Pessoa. Le lecteur entre en résonance avec l'écrit. Ces traces inhumaines appellent ce que nous avons de plus humain en nous. Franck de Waals parle de cette merveilleuse capacité d'habiter le corps des autres. La fameuse théorie de l'esprit chère aux neuroscientifiques. L'empathie fait entrer dans la vie intérieure de l'autre, dans sa réalité. Quand on assiste à un ballet, nous entrons dans le corps des acteurs, nous habitons la scène. Un faux pas et nous tombons avec le danseur. L'écriture peut résonner au-delà des mots. C'est ce que Roland Barthes appelle le travail littéraire. L'enjeu, disait-il, du travail littéraire est de faire non plus un consommateur, mais du lecteur un producteur de texte. Et d'ajouter, la littérature met en scène le langage au lieu simplement de l'utiliser. Alberto Manguel disait, lire, c'est beaucoup plus que lire. C'est l'art de traduire des signes, de déchiffrer. C'est le lecteur qui accorde une signification. Nous lisons le monde pour comprendre. L'art nous oblige à relire le monde. Ce lien qui précède le langage et les mots. Ce lien qui nous attache aux autres. Ce lien qui nous attache aux autres, relier les signes. Ne s'agit-il pas, étymologiquement parlant, enseigner ? En effet, la pédagogie met en scène le savoir écrit. Elle lui donne vie pour assurer le voyage apprenant comme la littérature. redonner de la saveur au savoir, écrire, quelle que soit son écriture, réinterroge le progrès social qui relie pour donner vie à l'humain. Avec la notion d'externalité et d'inhumanité, Socrate appelle l'animation de l'écriture. Le savoir n'est pas en soi vivant. Il ne s'agit pas tant de transmettre des savoirs que de les animer. L'écriture est un fossile de savoir. Il s'agit de faire son travail d'homme. Guillaume Apollinaire avait cette belle aphorisme « Il est grand temps de rallumer les étoiles. Une formation sans émotion n'est pas une formation. » Une belle leçon que nous donne Socrate dans cette première critique. Alors la deuxième critique de Tamous, l'écriture détruit la mémoire. En quoi l'écriture efface-t-elle la mémoire de l'homme? Catherine Wallette et Eleanor McGeer, neuroscientifiques de l'Université de Londres, ont publié en 2011 dans Current Biology une expérience intéressante auprès des chauffeurs de taxis londoniens. De quoi s'agit-il? Elles ont étudié 79 chauffeurs de taxis stagiaires durant leurs 4 années d'apprentissage. Tous avaient au départ une structure cérébrale semblable, mais à l'issue de la formation, 39 candidats ont réussi le test final. Et ce qui était intéressant, c'est d'analyser les changements physiques entre les 79 chauffeurs et les 39 qui avaient réussi le test final. Eh bien, ceux qui avaient réussi le test final, chacun avait subi des changements physiques au niveau cérébral. Ce que montre une analyse par IRM. Les scientifiques observent un recâblage neuronal pour mémoriser l'ensemble des rues et des itinéraires afin d'exercer leur métier. Leur hippocampe, la partie du cerveau impliquée dans la mémoire et dans la navigation spatiale, a grossi fortement en 4 ans. L'imagerie médicale ne nous dit pas s'il s'agit d'une production de neurones supplémentaires ou d'une connexion accrue des neurones existants. Mais peu importe. Apprendre a des conséquences physiques sur le cerveau. A l'inverse, l'introduction du GPS, mémoire externe de la connaissance des rues et des trajets, s'est traduite par une réduction de l'hippocampe. L'écriture comme mémoire externe, détruit donc bien de la mémoire. Faute de solliciter régulièrement la mémoire ne peut plus être appelée. C'est la raison pour laquelle le GPS, souvent dans les taxis, ce que vous pouvez observer vous aussi, est doublé par un autre GPS. Car le chauffeur qui a utilisé la mémoire externe efface sa mémoire interne. Cette sécurité est indispensable de façon à permettre au chauffeur de taxi de retrouver son chemin même si, préalablement, il connaissait le chemin. La mémoire externe, neurologiquement parlant, détruit de la mémoire interne. Mais l'étude d'Eleanor McGeer peut être lue aussi différemment. L'hippocampe des chauffeurs de taxi performants était saturé par des données, des rues, des trajets, toutes les informations nécessaires pour la mobilité. Mais d'autres études antérieures avaient observé que le chauffeur de taxi peinait plus que les autres conducteurs à s'adapter dans le changement d'une autre ville. Autrement dit, un chauffeur de taxi qui devait apprendre à être chauffeur de taxi dans une autre ville avait du mal à apprendre les rues et les trajets de l'autre ville, plus que quelqu'un qui n'avait pas déjà appris préalablement cette fonction. La mémoire des chauffeurs de taxi londoniens les empêche d'apprendre. Comme si une fois apprise, le chauffeur préfère toujours les mêmes trajets et répéter ses apprentissages. Autrement dit, et c'est là la nouveauté, l'apprentissage rend le cerveau moins adaptable. Cette découverte est particulièrement intéressante, car si on veut favoriser l'adaptation, il ne faut pas trop encombrer le cerveau. Le choix devient alors entre mémoire interne et mémoire interne ou et mémoire externe, et ou adaptation. Dans le cas d'une adaptation, l'écriture de la mémoire externe devient particulièrement riche. Et donc, dans un monde qui est en disruption, c'est intéressant de multiplier les mémoires externes de façon à libérer la mémoire interne. Ça change beaucoup dans le regard qu'on peut avoir sur l'écriture. Mais l'enjeu est ailleurs. l'oralité limite la formation, tout simplement parce que l'oralité est liée au support qu'est le corps humain. On a besoin d'un homme pour transmettre oralement. Le message fait littéralement corps avec son émetteur, et bien sûr avec son récepteur, puisque c'est la rencontre des deux dans l'oralité. Pour Michel Serres, c'est l'invention de l'écriture, puis de l'imprimerie et forcément du numérique, qui a dissocié encore davantage le corps du message. Cette dissociation a permis une production accrue des connaissances fossiles qui permettent d'être accessibles à beaucoup plus de monde que dans le modèle de l'oralité. L'externalisation a permis le développement de la formation. C'est pour cela que Michel Serres considère que la pédagogie est née de l'écriture. André Leroy-Gourhan considère que l'externalité est le cœur du processus d'hominisation. Elle nous libère de l'obligation de nous souvenir et nous rend ainsi plus disponibles pour des fonctions dites supérieures de l'homme. La perte du corps du savoir est une chance pour inventer, pour innover. Autrement dit, l'externalisation de la mémoire, la libération de la mémoire interne, ouvre des voies particulièrement riches pour des formations futures, pour apprendre ce qui va venir de par la suite. Alors évidemment, cette alliance entre mémoire externe et mémoire interne, avec le numérique, est particulièrement riche en opportunités, mais aussi en danger. Elon Musk, dès les années 2016, nous alertait sur les dangers d'une externalisation. À force d'investir dans les mémoires externes, les machines capitalisent cette capacité qui nous échappe. Les algorithmes assurent une rapidité de décision qui parfois nous fait défaut, surtout avec le big data. La question qui se pose est celle de l'hybridation de l'homme et de la machine. Comment faire si on met toute notre mémoire externe dans la machine pour pouvoir être symbiotique à la machine? Et puis surtout, la bonne question qui fait question et qui pose danger, et c'est ce que soulève Elon Musk, c'est qui pilotera le couple? Le risque est de voir l'homme devenir l'animal de compagnie des robots, beaucoup plus performant que lui, beaucoup plus raisonnable, rationnel. Elon Musk disait « Je n'aime pas l'idée de devenir le petit chien de robot beaucoup plus intelligent que nous. » L'externalisation donne à l'homme raisonnable un véritable appel à un progrès. Reste la question, c'est en quoi ce progrès social, comment l'organiser et comment profiter socialement de cette possibilité, de cette invention qui nous est offerte. Louis Borges nous propose une réflexion. Il avait écrit une nouvelle avec Irénée Funeste, l'homme qui était muni d'une mémoire extraordinaire et qui venait d'une histoire vraie. Il se rappelait de tout. Louis Borges disait « Il meurt très jeune, accablé de cette mémoire qu'un dieu pourrait supporter, mais pas un homme. » Il meurt très jeune, accablé de cette mémoire qu'un dieu pourrait supporter, mais pas un homme. La mémoire infinie est un grand malheur. L'homme se nourrit de ses oublis. Si la mémoire est si importante, c'est précisément parce que l'oubli est là. Sans l'oubli, plus de mémoire prestigieuse. Le progrès de l'homme et le propre de l'homme est de savoir oublier, de choisir sa mémoire. Et comme on l'a vu avec Socrate, lorsqu'il disait « Tu as trouvé un moyen non pas d'enrichir la mémoire, mais de conserver les souvenirs qu'elle a. » La mémoire numérique est souvent un souvenir de mémoire, une mémoire morte, mais qui est particulière, car elle connaît raisonnablement mieux chaque individu que l'individu se connaît lui-même. Les faits extériorisés sont têtus. Le droit à l'oubli devient nécessaire pour être capable de vivre ailleurs que dans son histoire, de s'inventer hors de sa mémoire numérique. Et c'est tout le chantier de cette dimension post-humanité que certains prônent, c'est d'être capable de ne pas s'enfermer, ne pas s'enferrer, ne pas devenir le toutou de robots qui sont raisonnablement beaucoup plus performants que ce que nous ne serons jamais. La force de l'homme, c'est d'être des minces, de choisir sa mémoire pour réinventer son destin, une poésie qui n'existe raisonnablement pas et qui pourtant est essentielle au fait que l'homme soit sapiens. Edgar Morin avait cette opposition. Il disait « L'homme est tout à la fois sapiens et démince. » Et c'est ce qui fait sa puissance. La révolution numérique, rationnelle, mathématique, ne risque-t-elle pas de faire simplement de l'homme un sapiens et de le rapprocher de l'homme-machine qui était cher à la maîtrise? Bernard Stiegler prophétise le contraire. Avec Internet, nous sommes redevenus des producteurs de mémoire. Au cours du 19e siècle, du 20e siècle, la prolétarisation d'abord des producteurs, puis des consommateurs avec le marketing, nous a privé de notre faculté de produire de la mémoire. Nous a exclus de cette production. Elle a fait de nous des êtres passifs. Soit comme des prolétaires, soit comme des consommateurs. Eh bien, pour Bernard Stiegler, cette capacité à ne pas avoir tout en mémoire interne rend l'homme plus acteur de sa mémoire. C'est lui qui choisit. L'apprenant redevient acteur de son savoir. Nous voilà l'approche de Socrate qui cherchait un homme qui apprenait par action, par décision personnelle. Il ne s'agit pas de prendre le savoir de l'extérieur, mais de se rappeler de son savoir intérieur. C'est toute la spécificité chez Socrate de la théorie de la réminiscence. Dans Ménon, il précise « Ainsi, immortelle et maintes fois renaissante, l'âme a tout vu. Tant ici que dans l'Hadès, il n'est rien qu'elle n'ait appris. Ainsi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que, sur la vertu et sur le reste, elle soit capable de se souvenir de ce qu'elle a su antérieurement. » La mémoire n'est pas faite pour apprendre, apprendre avec soi. Tout est là, il suffit de se rappeler. La pédagogie alors est de retrouver le chemin qui est le sien. C'est pour cette raison que Socrate est dur contre l'écriture. Parce qu'elle efface la mémoire, non pas de la connaissance externe, mais elle efface la mémoire du chemin qui conduit à la connaissance interne. La vraie connaissance, la connaissance de soi. Le fameux « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et c'est là le travail de formation. On s'aperçoit dans ce deuxième point qu'on comprend mieux la position de Socrate. Et bien pour être sûr que cette critique soit portée, il propose une troisième critique, l'écriture ne réagit pas. Effectivement, il dit l'écriture Phèdre, a tout, comme la peinture, un grave inconvénient. Les œuvres picturales paraissent comme vivantes, mais si tu les interroges, elles gardent un vénérable silence. Il en est de même des discours écrits. Tu croiras certes qu'ils parlent comme des personnes sensées, mais si tu veux leur demander de t'expliquer ce qu'ils disent, ils te répondront toujours la même chose. Une fois écrit, tout discours roule de tous côtés. Il tombe aussi bien chez ceux qui les comprennent que chez ceux auxquels il est sans intérêt. Il ne sait point à ceux à qui il faut parler, ni avec qui il est bon se taire. S'il se voit méprisé ou injustement injurié, il a toujours besoin d'un secours à son père, car il n'est pas lui-même capable de se défendre ni de se secourir. Autrement dit, l'écriture souffre par son absence d'interaction. Une image sans vie, un parler qui parle seul. Mettre à disposition des contenus auprès des apprenants ne fait pas pédagogie. Il est nécessaire, comme on l'a vu, d'animer. C'est sans doute là une spécificité de l'écriture numérique. On pourrait noter que le numérique favorise bien l'oralité, avec l'audio ou la vidéo, mais c'est une oralité morte qui ne répond pas à un apprentissage morbide. C'est pour ça que le e-learning 1.0 n'intéresse que peu l'apprenant qui lui préfère le présentiel parce que quand il pose une question, le formateur lui répond. Mais c'est tout l'intérêt du e-learning 2.0 qui anime l'écriture. L'écriture morte peut se réveiller au sein d'un chat de façon synchrone ou de façon asynchrone. Et il n'est pas étonnant de voir que le parallèle entre l'émergence de l'écriture numérique et l'émergence d'un marketing des contenus, un brand content. Socrate avait raison, il est besoin d'érotiser une écriture morte, resocialiser les contenus pour constituer la réaction, recréer des alchimies festives, des affects pour lutter contre les réifications du savoir. Michel Maffezoli parle de joie dionysiaque dans l'Homo Erectus en 2012. C'est ce côté impératif de redonner de la saveur. L'absence d'interaction appelle la resocialisation. Mais l'écriture numérique peut permettre l'interaction, puisque c'est la définition même du 2.0. L'entreprise a donc cette responsabilité de construire ce sens du commun et ce désir de s'engager. Gilles Deleuze considérait qu'il n'y a de désir qu'agencé ou machiné. Vous ne pouvez pas saisir ou concevoir un désir hors d'un agencement déterminé, sur un plan qui ne préexiste pas, mais qui doit être lui-même construit. Que chacun, groupe ou individu, constitue le plan d'immanence où il mène sa vie et son entreprise. C'est la seule affaire importante pour Gilles Deleuze. Remachiner la formation pour redonner la vie à une histoire morte, ce que Michel Serres appelle le travail de littérature. Edgar Morin propose une pédagogie des connaissances. Il faut réunir des connaissances venues des sciences naturelles, mais la littérature et la poésie sont aussi des moyens de connaissance de l'humanité auxquels s'exprime l'humain. Les romans, ou plus exactement ce qu'on appelle les grands romans, nous montrent ce qu'aucune science ne peut réaliser. Ils nous présentent des êtres humains vivants dans leur subjectivité, dans leurs sentiments, dans leurs pensées, dans leur milieu, dans leurs relations, dans leur activité, dans leur cadre social, comme chez Balzac, ou dans leur cadre historique, comme dans Guerre et Paix de Tolstoï. Des êtres avec toute leur complexité intérieure, comme chez Dostoïevski ou chez Proust. Les grands romans sont des moyens de connaissance de l'humanité. Le roman ne doit pas être perçu que comme un objet de jouissance esthétique. C'est aussi un moyen de compréhension. Dans le jeu entre l'imaginaire et le réel, l'imaginaire nous aide à mieux voir le réel, à mieux vivre avec des lucidités sur l'homme. Cette belle appel, cette belle définition d'Edgar Morin fait penser au travail de storytelling, comme on dit aujourd'hui. Raconter un bon roman au bon moment, stimuler les communions émotionnelles partagées. Et c'est le rôle de la pédagogie que d'écrire ces pédagogies dites affectives. L'homme socratique a besoin de l'autre pour se trouver. Le « je pense donc je suis » pourrait s'écrire « tu penses donc je suis ». L'interaction fait référence et donne une place primordiale à l'autre. Elle fait référence à sa réalité. L'intelligence émotionnelle et sociale, la capacité d'attention de l'autre, se mettre à la place de l'autre, ressentir les intentions, les émotions. Franz de Waals redonne une actualité nouvelle à cette démarche socratique quand il dit que l'empathie est la forme originelle, pré-langagière des relations interindividuelles. Et ce n'est que dans un second temps qu'elle est passée sous l'influence du langage et de la culture. D'autres vont encore plus loin, comme on le verra dans un épisode futur. Ce n'est pas le dit qui importe. Sinon Socrate aurait été sophiste, mais c'est l'incarnation en dehors du langage. Cet accès direct à l'autre, croire dans sa réalité du monde intérieur. L'homme socratique est un homo dialogus, étymologiquement parlant, à travers la parole. Un homme qui vit grâce à l'autre. Au temps de l'australopithèque, où le langage n'existait pas encore, comment l'homme transmettait? Il existe bien des découvertes sur l'apprentissage sans conscience, mais on parle aussi de l'imitation avec des neurones miroirs, de la facilitation, de la répétition du mouvement et de bien d'autres possibilités, comme on l'a vu dans les épisodes sur la préhistoire de la formation. Les mots ne sont pas là pour apprendre. Le geste socialise. Quand on prend dans les grands singes, comment ouvrir des noix sans écraser le cerveau à l'intérieur? Comment fait la femelle pour expliquer à ses enfants comment casser des noix dans les arbres à la bonne saison, pour que la noix soit mûre? Il faut choisir avec le bon percuteur dans l'arbre. Comment est-ce qu'on se stabilise? Comment est-ce qu'on stabilise l'arbre? Comment est-ce qu'on fait rotation? Comment est-ce qu'on frappe? Comment transmettre? Frédéric Jouyant, maître de conférence à EHES, propose que les enfants sentent le corps bouger, apprennent avec ou sans conscience. Le fait de ressentir la formation permet d'apprendre. Et comment ne pas imaginer le plaisir de la découverte? Juste le plaisir, la beauté du geste, l'esthétisation. L'esthétisation du geste, mais aussi l'esthétisation de la pensée. Que faire de ce plaisir? Ce sont des questions importantes que Socrate a abordées à sa façon. Martin Buber revient sur cette notion de lien et de remachiner les savoirs. La personne humaine apparaît lorsqu'elle entre en relation avec d'autres personnes humaines. La fatalité de l'homme moderne réside dans le fait de croire qu'en injectant du sentiment pour contrebalancer le monopole des institutions, il sera possible de construire une communauté vraie. En effet, les sentiments sont nécessaires dans cette entreprise, mais ils ne peuvent pas être à eux seuls constitutifs de base solide d'une communauté, ni en être à l'origine. Les fondations d'une communauté résident dans des deux éléments principaux. Le premier, c'est l'existence entre les membres de cette communauté d'une relation vivante et réciproque avec un centre vivant. Le centre vivant décide le tu, qui n'est le jeu d'aucune des deux parties. Il exprime l'idée que les êtres humains se révèlent les uns aux autres et constituent en cela un point central de la relation. Le second élément, établit le fait que les membres doivent être reliés les uns aux autres par des liens d'une vivante réciprocité. Réciprocité qui s'articule justement autour du centre vivant. On retrouve cette façon d'animer la relation avec, bien sûr, le langage, mais aussi hors du langage, comme lorsqu'Emmanuel Lévinas, ce qu'il appellera un peu plus tard, l'épiphanie du visage. Cette rencontre qui questionne, lorsqu'on voit quelqu'un en face, rien n'est dit, et pourtant tout est dit, autour d'une relation, d'une communion affective. L'interaction socratique incarne cette rencontre entre l'homme avec son humanité, s'ouvrir au monde par des interactions, comprendre le monde, et ressentir ce pouvoir de vivre en nous, les intentions de l'autre, à partir de ce que nous percevons, de son son de sa voix, de ses positionnements. L'homme ne devient homme que dans la relation à l'autre. C'est en cela que la position socratique est particulièrement intéressante aujourd'hui. Le poète mystique Angelus Silesius proposait cet aphorisme: si tu n'existais pas, toi non plus, pardon, si je n'existais pas, toi non plus tu n'existerais pas, puisque moi, c'est toi, avec ce besoin que tu as de moi. L'interaction est au cœur de notre humanité. On comprend mieux pourquoi, arrivant à la fin de notre voyage, Socrate, encore aujourd'hui, est en écho avec nos pédagogies. Que dire de plus? Peut-être deux extensions qui enrichissent de leur couleur la pensée de Socrate. Une première sur la réification des savoirs. Pour Socrate, la réification est le fossile d'un savoir vivant. L'école de Francfort, avec des auteurs comme Lucas, Marcus et bien sûr Habermas, avec son éthique de la discussion, vont plus loin et considèrent que la réification est une volonté politique. Réifier les savoirs, c'est imposer un modèle figé. On peut retrouver dans ses propos, même s'ils ne sont pas de la même école, Jean Bourdieu qui parlait de reproduction sociale. C'est aussi une volonté de contrôler. Et donc l'écriture est une arme politique. C'est un regard qui est une extension intéressante. Alors qu'en est-il? Surtout quand on reprend l'écriture au sens de Socrate. Eh bien, Pascal Vernus, qui est directeur d'études linguistiques égyptiennes, à l'école pratique des hautes études, raconte l'émergence de l'écriture en Égypte. Il existait, avant la naissance de l'écriture, une proto-écriture. Qu'est-ce qui a fait qu'une proto-écriture soit devenue une écriture, avec les fameux hiéroglyphes? Si on prend les hiéroglyphes qui sont nés 3250 ans avant Jésus-Christ, il existait, par exemple, des oiseaux stylisés, comme les ibis ou les jabirus, qui sont assez proches de ce qui est par la suite a donné naissance aux hiéroglyphes. Mais quel est le premier acte politique qui a fondé l'écriture? Eh bien, beaucoup pensent que c'était lié à l'administration. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. L'administration, et ce n'est pas forcément la comptabilité, c'est simplement le fait de mettre un sceau royal sur les produits pour dire c'est le produit qui a été ou qui appartient au roi. Et donc c'était plutôt une façon d'assurer son contrôle au sein de l'administration qu'une simple comptabilité qui serait neutre. Une façon de savoir qui était propriétaire des matériaux. Mais la première vraie écriture est née en 3100 avant Jésus-Christ. Alors, 3100 avant Jésus-Christ, en quoi est-ce que c'est politique? Eh bien, tout simplement, c'est que la réunification de l'Égypte a été faite en 3150 avant Jésus-Christ, et donc avant, bien sûr, la naissance de l'écriture, et que l'écriture est donc née du besoin de raconter cette réunification. Et c'est ainsi que les premiers écrits retrouvés permettent de raconter en quoi l'Égypte était maintenant unie, autour d'un même territoire. Et donc on voit bien que l'écriture est née d'un acte politique. Autrement dit, l'écriture sert à changer le monde. Et c'est en cela qu'on impose une forme de savoir et qui permet de se dire quelle forme on peut donner à la fois au contenu et à la fois à la façon de transmettre le contenu en plus grande quantité. Autrement dit, la formation nécessite ce qu'on sait bien, le fait d'avoir choisi en amont la direction vers laquelle on veut aller. Il s'agit d'avoir des choix qui nous sont extérieurs, d'une culture qui est extérieure, pour qu'on puisse l'intérioriser et qu'elle devienne notre façon de penser. Et bien dans un monde en disruption, où on ne sait pas, où la visibilité stratégique est à hauteur de 2, 3, 4, 3 ans, c'est déjà beaucoup, où certaines trajectoires technologiques disparaissent complètement avec le numérique, cette façon de plus savoir où on va fait en sorte que on ne sait pas comment incarner la formation, comment incarner l'écriture, et c'est en cela où la réification apparaît, parce qu'elle permet de conserver un outil de contrôle, mais il lui manque l'histoire à raconter qui est celle de l'animation. Donc l'idée qu'on retrouve dans cette première extension est une idée intéressante. Il y aurait une deuxième extension qui est encore qui est un autre ordre. Si la première est très opérationnelle parce qu'elle détermine les objectifs qu'on veut se donner, c'est-à-dire où veut-on aller, la deuxième porte plus sur la dimension pédagogique, et c'est plus une dimension théorique, on va voir en quoi. Socrate nous met en garde sur sa façon de penser. Il dit qu'effectivement on peut former l'homme, on peut l'accompagner, on peut lui permettre de grandir, mais à une seule condition, de partir chaque fois de sa quête personnelle, de ce qu'il a de plus intime. Autrement dit, Socrate se positionne d'emblée au cœur de la personne moins de l'individu que de la personne, pour justement se dire la formation doit toucher à ce niveau-là. Et donc forcément, on se dit, si on touche à ce qui est le sensible de l'homme, dans ces cas-là, il faut interroger l'homme sur comment est-ce qu'il ressent la formation. C'est ce que le pédagogue Adrien Helvétius, avait résumé dans la formule qui est devenue célèbre, « Penser, c'est sentir ». L'apprenant doit ressentir l'information dans son fort intérieur. Et on retrouve cette dimension-là déjà chez Socrate. C'est-à-dire c'est avoir une pensée vivante, par opposition à, comme on l'a vu, des savoirs qui sont mortifères. Autrement dit, c'est relier la pensée au vivant. Il est plus facile de transmettre des écritures que de transmettre la vie. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette formule a souvent été sous le feu des colibés, puisque de nombreuses critiques, les gens se disaient si effectivement penser c'est sentir, alors sentir c'est penser. Et donc pensant décrédibiliser par là même dans la pensée cartésienne cette pédagogie. Or si on regarde un peu plus loin, Fernando Pessoa, dans Le chemin du serpent, loin d'en faire une critique, reprend à cette compte cette façon de dire sentir ses pensées, non pas pour décrédibiliser, mais pour apporter un regard différent. Il dit « Sentir, c'est créer. Sentir, c'est penser sans idée. Voilà pourquoi sentir, c'est comprendre, vu que l'univers n'a pas d'idée. Sentir, c'est penser sans idée. Ne pas s'enfermer dans le carcan des mots et des idées. C'est une idée qui est importante, puisque quand on reprend les théories, on construit souvent des théories que l'on veut hors sol, et on coupe les théories de la vie, et c'est toute la connaissance réifiée qui est remise en cause. C'est une très belle idée qu'on retrouve bien sûr chez Socrate, avec une continuité dans les sciences de la pédagogie, qui sont souvent très critiquées, ce qu'on appelle les pédagogies sensualistes, d'Étienne de Condillac, dans son sensualisme de la connaissance, c'est-à-dire une résonance hors du langage, une alternative à la volonté de tout rationaliser. En cela, il s'opposait bien évidemment à Descartes, qui est la référence dominante parce que de l'ère des Lumières, etc. Mais aujourd'hui, comme on réinterroge le modèle, c'est intéressant de s'interroger sur tout ce qu'on a écarté sur le bord du chemin dans le paradigme dominant. Fernando Pessoa ajoutait dans un autre recueil, Poème non assemblé, tout le monde sait qu'une fleur est une fleur et qu'un arbre est un arbre. Mais moi j'ai répondu, tout le monde ? Voir. Tout le monde aime les fleurs parce qu'elles sont belles. Et moi je suis différent. Tout le monde aime les arbres parce qu'ils sont verts et donnent de l'ombre. Mais pas moi. J'aime les fleurs parce qu'elles sont des fleurs directement. J'aime les arbres parce qu'ils sont des arbres sans ma pensée. Un savoir sans pensée, une connaissance vivante non socialisée. La pédagogie sensualiste nous rappelle que l'écriture est une commodité sociale qui favorise la diffusion, mais il ne faut pas confondre la carte et le territoire, le thermomètre et le malade. La vérité est ailleurs. L'émergence de l'écriture numérique avec le e-learning permet de réinterroger les formes de la formation. Et si l'ivresse de la création numérique fait perdre l'équilibre pédagogique, l'ingénieur de la formation laisse place à un artisan numérique. Artisan, étymologiquement, celui qui utilise les ars numériques, les outils. La technique ne doit pas faire oublier l'homme. Et c'est là le message de Socrate. Quelles que soient les créatures de la formation, Une formation sans poésie n'est plus une formation vivante. Je vous remercie.